PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous, bienvenue dans le 13e épisode de la saison 5 de Vue du Banc, un épisode du lundi qui sera consacré à la préparation, à la présentation des matchs de Ligue des Champions du milieu de semaine là, qui arrive dans les jours prochains. Pour cet épisode, comme d'habitude, David et Jonathan, Raphaël Kosmidis et Florent Tonuti qui sont ensemble sur place dans les locaux personnels de Raphaël. Voilà. Bonjour Raphaël Kosmidis de l'équipe.
Salut Christophe.
Bonjour Florent Tonuti de Chronique Tactique.
Salut Christophe.
Tout se passe bien dans les locaux, vous n'êtes pas encore tapé dessus.
On est encore habillé, donc tout va bien.
D'accord, c'est un très beau début d'émission. Alors, donc, comme je disais, on reviendra peut-être en fin d'émission sur un match notamment de la semaine, le choc entre Arsenal et Liverpool. Mais on va commencer par la présentation des matchs à venir, et notamment le Naples-PSG qui est peut-être le gros match de la saison parisienne, parce que si tu perds celui-là, peut-être que tous ceux qui vont suivre n'ont aucun intérêt limité, sauf si ça se retrouve en demi-finale de Ligue Europa peut-être, mais bon, c'est du foot fiction. Raphaël, tu as écrit un article sur le beau média L'Équipe, sur l'équipe.fr, intitulé « Tactique, quelle marge de manœuvre pour le PSG face à Naples ?» Oui. Du coup, peux-tu répondre en quelques mots à la question « Quelle marge de manœuvre pour le PSG face à Naples ?»
Parce qu'on avait prévu donc avec Florent de revenir sur les deux matchs importants des clubs français sur le PSG. C'était surtout par rapport à ce qu'on avait dit déjà un peu lors d'un podcast précédent concernant ce match-là, sur ce qu'avait trouvé un peu Tuchel lors de cette confrontation compliquée face à Naples, notamment en deuxième période. Alors il y a une première période qu'on avait déjà évoquée où le PSG avait été en grande difficulté pour les mêmes raisons que lors du match contre Liverpool, c'est-à-dire un premier rideau complètement déséquilibré, parfois pas concerné, parfois pas disons intelligent dans sa manière d'intervenir défensivement. Et c'est là que Tuchel avait un besoin de corriger les choses. Ça a été fait plutôt bien depuis contre Marseille et contre Naples. Donc ça c'est le premier volet, c'est sur ce premier rideau Mbappé, Neymar, Cavani, Di Maria et comment il va travailler. C'est ce premier axe là. Je vais donner les trois et ensuite on les développera. Le deuxième ce sera le système de jeu puisque depuis le match contre Naples, où le PSG avait démarré à 4 derrière, ils sont passés à 3 en deuxième période, et depuis le PSG ne joue plus qu'à 3 derrière. Ils ont lâché cette défense à 4, en tout cas pour le moment, et c'était ce qu'avait fait Tourelle aussi à Dortmund, où il avait fini par privilégier une défense à 3. Et puis le troisième volet, c'est sur les transitions, et le type de football que le PSG veut pratiquer et peut pratiquer par rapport aux préférences de Tourelle, et est-ce qu'un pressing à la perte peut être mis en place avec la façon de jouer de Neymar, l'instinct de Neymar et les préférences de Mbappé aussi. Donc voilà, c'est ces trois volets-là que j'ai évoqués dans le papier et que je vais essayer de développer. Mais il y a du boulot, cela dit, les deux, trois derniers matchs du PSG et cette deuxième mi-temps contre Naples sont plutôt prometteurs.
Florent, est-ce que tu veux partir sur l'un des trois points de Raphaël ou est-ce que tu veux ajouter ton propre quatrième point?
Non, pas de quatrième point. Je vais, puisque Raphaël a quand même très bien fait le travail dans son article. Donc je vais plus m'intéresser à un de ces trois points et plus le troisième point qui concerne Neymar et qui imprime aujourd'hui un style quand même très vertical au PSG, avec des actions qui se déclenchent très rapidement après la première passe. L'idée, c'est vraiment de trouver la verticalité et un petit peu le chemin quasi direct, mais de Verratti à Neymar à Mbappé en profondeur. Et c'est vrai que quand tu fais comme ça, le rythme des têtes d'attaque est quand même très rapide, très élevé. Et en fait, les moments où tu as un temps faible, c'est quand même compliqué de s'organiser. C'est pas des attaques qui vont se développer sur la largeur, qui laissent le temps à tout le bloc de monter ensemble, de se déplacer et du coup d'être présent à la perte de balle. Et c'est vrai que ce style très vertical, par contre, qui sied très bien aux joueurs en phase offensive, ça peut être un problème à la perte parce que tu seras pas forcément structuré, parce que Neymar et Mbappé iront peut-être beaucoup plus vite que le reste du bloc en fait.
Mais c'est là qu'il va être intéressant d'analyser la capacité de Tuchel aussi à changer un peu le style de jeu naturel de Neymar et Mbappé, parce que s'il reste dans la même idée, ça va être qui tout double. C'est-à-dire que soit tu fais un super match offensivement, tes initiatives offensives, les moments où Neymar en 1 contre 2 alors que l'équipe n'a pas avancé, va essayer de faire la différence, ça marche, et tu te crées des occasions, tu marques des buts, soit tu perds le ballon, et derrière, en fait, le fait d'avoir pris un risque offensivement comme ça va te créer d'énormes risques défensivement, parce que le problème dans l'axe pour couvrir beaucoup d'espace n'a toujours pas été solutionné. Et même avec trois défenseurs centraux, tu es obligé de défendre en reculant. Et contre un Naples où tu as des Caïron, des Insigne, des Mertes qui ont été très mobiles, qui ont mis en difficulté Kimpembe et Marquinhos lors du match aller et Kerrer aussi, c'est difficile d'attaquer de cette façon-là. Donc je suis curieux de voir comment ça va changer. Est-ce que Tuchel va essayer d'influencer un peu les attaquants ou est-ce qu'il va prendre le risque et se dire bah soit ça passe soit ça casse, parce que pour l'instant c'est un peu ce que fait le PSG.
Après il y a quelque chose aussi pour finir là-dessus, c'est que dans leur manière d'attaquer, évidemment Tuchel Enfin, ça a totalement déplacé le fait de remettre dans l'axe Neymar. Ça a totalement redéplacé les points d'équilibre. L'an dernier, le PSG, c'était vraiment que les côtés. Il y avait très peu de jeux intérieurs, avec Neymar et Mbappé qui repiquaient. Surtout Neymar, plus que Mbappé, qui débordait quand même pas mal sur le côté droit. Et le truc, c'est que cette année, aujourd'hui, en termes de production sur les côtés, il n'y a quand même pas grand-chose. Il y a très peu de combinaisons, très peu de jeux à 3, par exemple, qui pourraient pourtant fonctionner. Et c'est vrai qu'au final, le fait de se renforcer à l'intérieur, Paris est vraiment très fort, parce que dès que tu trouves Neymar entre les lignes, il est capable de trouver des passes, ça va très très vite. Mais par contre, tu as vraiment perdu en créativité sur les côtés, parce qu'en plus, en termes d'individualité, il n'y a plus vraiment de joueurs non plus qui sont capables de les animer. Des joueurs forts en un contre un, maintenant ils sont dans l'axe en fait. Et ce qui fait que sur les côtés, il n'y a plus grand monde aussi pour attaquer.
Raphaël, philosophiquement, est-ce que face à Naples, tu aborderais plus le match sur du contrôle ou sur du but à but, de la transition, un peu de folie? J'imagine que face à Liverpool, la réponse serait assez claire. Il vaut mieux pas partir dans ce jeu-là, parce que Liverpool fera tout plus vite que toi et s'épanouirait là-dedans. Face à Naples, qui peut quand même aller vite, mais qui est quand même un peu moins une équipe de transition que Liverpool. T'imagines comment la meilleure façon d'aborder ça? Est-ce qu'il vaut mieux calmer le jeu ou au contraire emballer le match et faire un peu un quitte ou double permanent?
Bah après, il y a une donnée à prendre en compte pour le PSG, c'est qu'il faudrait mieux gagner si tu vas à Naples là. Si tu fais match nul et que derrière Naples gagne contre l'Étoile Rouge comme c'est prévu et joue Liverpool au sixième match, Tu joues ta vie finalement sur le match contre Liverpool en espérant qu'au dernier, Naples-Liverpool fasse pas un truc à la con, volontairement ou involontairement,
par exemple,
pour dire voilà, on va reposer un peu les mecs, et puis inconsciemment, un peu de télépathie footballistique, et ça fait un match tranquille. Donc là, sur le coup, ils ont besoin de gagner. Tu peux partir sur l'idée de faire un quitte ou double, mais ça peut se retourner très vite contre toi, ou tu peux partir sur du contrôle en espérant au moins en deuxième période commencer à prendre le dessus. J'imagine plutôt que le PSG ira vers un peu plus de contrôle vu l'évolution récente. Si on analyse les matchs contre Lille, c'est un peu ce qu'a fait Tourelle. Alors il y a toujours des séquences où ça s'enferme dans des dribbles impossibles côté Neymar et ça perd des ballons, mais l'équipe a quand même évolué plus haut. Je pense qu'elle était plus patiente. Alors c'est plus facile contre Lille, mais ils ont concédé peu de contre-attaques. C'est l'équipe peut-être la meilleure contre-attaquante du championnat aujourd'hui si tu fais le bilan de la Ligue 1. Donc vu l'évolution récente, je pense que ce sera un peu plus de contrôle. Et c'est toi qui as vu le match contre Lille, Christophe, j'imagine que tu tires à peu près la même conclusion.
Bah disons, moi, ce que j'ai retenu du match contre Lille, c'est que tu as prouvé que tu savais parfaitement étouffer l'adversaire, presser la perte, etc. Donc qu'une fois que tu arrivais à installer le jeu dans le camp adverse, tu étais capable d'étouffer l'adversaire pendant 90 minutes et un peu de le réduire au silence et de tuer dans l'œuf toutes ces possibilités de contre-attaque avec tes latéraux qui jouent assez haut, de forcer les ailiers adverses à défendre. Donc du coup, de gagner cette bataille-là aussi, qui fait que quand l'adversaire récupère la balle, il a 70 mètres à faire plutôt que 50. Donc en gros, faire basculer un peu le bloc médian adverse va être faire un bloc plutôt bas. Moi, le gros souci, c'est que Lille a posé des problèmes. Enfin, en tout cas, les forces lilloises étaient des choses auxquelles Paris pouvait assez facilement répondre, alors que la superposition des forces de Naples par rapport aux faiblesses parisiennes est totalement différente et que le pressing à la perte est beaucoup plus difficile quand Naples, comme c'est quand même la tendance, va essayer de relancer au sol et de s'en sortir alors que Lille rendait plus facilement la balle, et quand Naples va aussi sur tes phases de construction essayer d'aller te chercher plus haut plutôt que d'attendre et de se faire étouffer sans réagir. Naples va quand même essayer, je pense, de presser, de tester un petit peu la relance parisienne sous pression. Donc du coup, t'arriveras beaucoup moins facilement dans les 30 derniers mètres adverses sans avoir été testé, quoi. Et je pense que c'est en ça que, alors c'est le, je suis assez d'accord sur avec Tourelle sur le fait que c'était peut-être le meilleur match de la saison parisienne face à Lille. Mais je vois pas d'énormes indications qui te permettraient de dire qu'à partir de ce match-là, tu puisses bâtir quelque chose. Hormis peut-être sur la défense à 3, c'est l'un des trucs que tu évoques, le fait que la défense à 3 soit après, en train de s'installer.
Tu parles de Naples qui va presser haut. S'ils restent dans leur 4-4-2 contre la nouvelle défense à 3 du PSG, enfin nouvelle, relativement nouvelle, mais installée désormais, il va falloir qu'Ancelotti prépare un truc, parce qu'à 2 contre 3, tu vas vite être dépassé. Mais tu sais qu'Ancelotti peut préparer un peu tout et n'importe quoi sur une rencontre. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que là, j'ai créé un truc où le PSG sait ce qu'il doit corriger par rapport au match aller. Mais c'est difficile d'anticiper ce que va faire Ancelotti. Tu vois, tu peux changer la manière de défendre sur le premier rideau, mais de plus d'intensité. Si Ancelotti refait un truc avec Maximovic qui se recentre à l'intérieur, avec un Ospina impliqué dans la construction, il va falloir que tu corriges un peu Mbappé, Neymar et Cavani sur la manière d'orienter le pressing. C'est pour ça que je suis très curieux, parce que cette double confrontation, la journée 3 et 4, elle est. Je crois que le PSG n'a pas rencontré de situation similaire comme ça les années passées, où il y a vraiment une difficulté en phase de poule. Où ils jouent un peu leur vie là-dessus, et même un moment où t'as un peu chaud. Là, pour le coup, on a vu que Tuchel, sur les 45 premières minutes, il avait souvent du mal, qu'il arrivait à corriger en cours de match plutôt bien. Mais là, tu peux pas rater les 45 premières. Et je suis très curieux de voir ce qu'Ancelotti va proposer.
Florent, est-ce que tu imagines Ancelotti sortir un lapin de son chapeau et inventer pour surprendre? Ou alors, le simple fait d'avoir une formule qui fonctionne, bah, autant s'appuyer sur ce que tu sais faire, même si l'adversaire sait comment tu vas jouer. À partir du moment où t'as pas de réponse, t'as pas de réponse, quoi.
Non, mais je pense qu'il va, pardon, il va pas trop sortir de ce qu'il a fait jusqu'ici. Il n'y a pas de raison. Il sort de deux victoires face à Liverpool et le PSG en Ligue des Champions avec un système, c'est-à-dire le système asymétrique pour relancer et le 4-4-2 ensuite pour défendre. 4-4-2 qui est capable de sortir plus haut aussi si nécessaire. Et il n'y a pas de raison d'en sortir vu les résultats et surtout que, au final, Paris, au moment d'affronter Naples, savait comment jouer Naples en Ligue des Champions, puisqu'ils les avaient vus face à Liverpool, donc ils connaissaient tous les systèmes, etc. Et en plus, côté napolitain, il y a aussi quelque chose qui peut aussi faire mal au pressing à la part du PSG, c'est que dans les petits espaces, il y a encore les restes de l'époque de Sarri, et on l'avait vu aussi au match aller sur les certaines séquences, même quand ils avaient réglé leurs problèmes défensifs, les Parisiens, de pressing notamment sur le côté droit. On voyait quand même que sous pression, dans les petits espaces, les Napolitains, il y avait quand même beaucoup de qualité pour sortir les zones de pression. Et ça, rien que ça, en fait, au match retour, ils peuvent faire encore pas mal de soucis aux Parisiens. Et notamment à l'aller, ils perdent Insigne très vite et qui les plombe un peu en termes de qualité offensive et de capacité justement à sortir du pressing. Là, j'imagine qu'il sera là 90 minutes. Et ça aussi, ça rendra Naples plus dangereux sur la durée, quoi.
Raphaël, la défense à 3 par rapport à la défense à 4, bon, tu as parlé tout à l'heure du déséquilibre structurel 3 contre 2 qui peut profiter au PSG sur ce match précis. Est-ce que tu penses que c'est définitif, même si on peut très bien être démenti dans 2 semaines, mais la défense à 3 te paraît apporter un équilibre qu'il n'y avait pas forcément auparavant?
Je pense qu'elle elle offre à Tuchel ce qu'il voulait proposer au départ quand il est arrivé au PSG, c'est à la fois ce contrôle, cette relance en surnombre où il a plus besoin de faire décrocher un des deux milieux alors que c'était limite quelque chose qui justifiait à Verratti et Rabiot de venir dans une zone de confort et de pas aller se mettre en difficulté entre les lignes adverses. Ça met Neymar à l'intérieur et en plus ça met un Mbappé ou un Di Maria proche de lui pour combiner. Ça a pas mal de points positifs et sur l'aspect purement défensif, ça a permis sur le match aller, à Meunier et Di Maria sur les côtés de sortir beaucoup plus haut et sortir sur les latéraux napolitains et que ce soit avec Sarri aujourd'hui avec Ancelotti. Les latéraux sont souvent des portes de sortie pour Naples quand ils arrivent à passer le premier rideau où ils sont capables de trouver ses passes intérieures parce que Ruiz n'est pas vraiment un joueur de côté, il vient à l'intérieur, Insigne et Mertens, c'est fort de haut jeu, ça peut combiner en des petites touches très rapides et ensuite se redéplacer immédiatement. Donc je pense que c'est ce que voulait faire Tuchel au départ, cette défense à 3 quand il est arrivé au PSG, et les éléments et les événements qu'ils ont vécu depuis quelques mois le confirment dans cette idée-là. Je vois pas trop de raison aujourd'hui de retourner à une défense à 4, à part grosse crise de blessure ou d'absence côté centraux.
Et c'est vrai, Florent, qu'en plus, par exemple, Meunier, c'est sa position préférentielle de jouer latéral dans une défense à 3, de pouvoir porter plus haut contre Lille, il était vraiment, vraiment très très haut. A priori, moi, je vois pas de joueur qui serait hors de position, peut-être parfois Di Maria, mais qui serait pénalisé par cette organisation-là. Après, c'est la façon dont, dont tu arrives à l'animer et à faire que tout le monde puisse dépasser ses fonctions quand c'est possible.
Ouais, et puis surtout, dans la défense à 3, tu parlais de Meunier, par rapport au côté fort du Napoli, qui est clairement le côté gauche. Ça se répète de toute façon depuis longtemps, et même la saison dernière sous Sarri, ça penchait quand même largement à gauche, avec un Caillerand qui était juste un finisseur à droite, deuxième poteau. Et c'est vrai que quand tu vois sur le match aller les problèmes qu'a posé Mario Rui avec Fabian Ruiz ou Meunier savait absolument pas comment se placer, Verratti était obligé de se déplacer pour compenser parce que devant Mbappé défendait pas, défendre à 3 ça va permettre déjà à la base à Meunier d'aller chercher plus haut et de défendre en avançant
et d'être couvert par un central
et d'être couvert par le central derrière un peu. Et ça va changer quand même pas mal de choses pour Paris. D'ailleurs sur la deuxième mi-temps face à Naples, il presse un peu mieux aussi parce que Meunier peut sortir plus.
Hamsik le disait dans une interview à l'équipe magazine, et la possession est passée de 43% en première au PSG à 62% en deuxième période. Alors il y a aussi l'effet du score qui fait que Paris doit aller chercher l'égalisation, mais ça a participé à ça et ça a évité que Verratti et Rabiot sortent très très loin sur les côtés et libèrent des joueurs à l'intérieur, des Hamsik, des Insigne, des Mertens, des Ruiz qui venaient intérieur aussi. C'est beaucoup plus équilibré. Maintenant, je suis curieux de voir qui seront les trois à la fin de la saison qui composeront l'attaque. Et quand tu vois ce qui a été fait sans Cavani depuis quelques temps, et notamment ce Neymar, Cavani ou Neymar Mbappé derrière un attaquant, avec un Mbappé dans la profondeur qui peut donner des lignes de passe et des solutions en permanence à Neymar, et des solutions très rapides et beaucoup plus efficaces qu'un Cavani, parce qu'il va plus vite et parce que même une passe un peu ratée, il va la rattraper, alors que Cavani est un joueur qui peut pas se tromper sur son déplacement. Surtout que tu auras l'adore Di Maria, je suis pas sûr qu'à la fin de la saison, on se retrouve pas avec un Bernat latéral gauche et une attaque à 3, Neymar Di Maria derrière Mbappé.
Et peut-être des mercredis, hein. Enfin ouais. Dès demain. Hein.
Et donc un Cavani qui pourrait éventuellement rentrer si jamais tu as besoin de marquer un but et de passer dans un système entre guillemets déséquilibré sur les 20 dernières minutes, mais que ça soit pas lui l'avenir de la construction offensive
quand
du
tu,
PSG. Quoi.
Quand tu fais de Neymar ton leader en termes de style, de ballon touché, d'initiative prise sur les offensives, tu as besoin de quelqu'un d'hyper réactif, de quelqu'un qui peut combiner avec lui, qui peut aussi décrocher, qui peut prendre vite la profondeur. Et le seul qui est complet dans ce domaine-là, c'est Mbappé. Parce qu'Avani ne peut pas le faire, les autres solutions, Choupo-Moting, c'est un joueur qui peut jouer quand il est dans l'axe uniquement quasiment dos au but. Donc je suis curieux de voir ça. Après, c'est difficile de sortir un Cavani quand tu vois ses stats et quand tu vois son statut depuis quelques temps, mais la question s'était déjà posée l'an dernier sur est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions, aller loin avec un 9 comme Cavani. Elle se repose aujourd'hui, et quand tu vois les performances que a fait le PSG, même à 10, avec Neymar derrière Mbappé, notamment contre Lyon, je penche plutôt pour cette solution sans l'Uruguayen.
Florent, est-ce que tu vois une amélioration possible dans le jeu sans ballon du PSG? Parce qu'on sait que là, le pressing à la perte, contre-pressing, on appelle ça comme on veut, généralement c'est à peu près la même chose. Je vais pas dire que c'est parfait, mais enfin on est quand même sur un truc très très abouti. Par contre, quand t'es pas dans cette situation-là de récupérer la balle dès qu'elle est perdue dans le camp adverse, c'est tout de suite plus compliqué. La Ligue des Champions t'offre ces oppositions-là où pour le coup tu peux être amené à courir après la balle pendant des séquences de 2-3 minutes. Est-ce que tu vois une amélioration là sur les dernières semaines? Est-ce qu'il peut y avoir une amélioration? Ou alors le déséquilibre structurel va rester et puis tu devras faire qu'il soit compensé par d'autres choses, comme par exemple le Real était déséquilibré, mais ça n'a pas empêché de gagner la Ligue des Champions parce que sa puissance offensive compensait largement son déséquilibre avec un milieu de terrain qui était parfois coupé en deux.
Ça va quand même beaucoup dépendre des joueurs et de leur implication. Mbappé, quand il était à Monaco, quand il était en pointe à côté de Falcao, des deux attaquants, c'est lui qui courait le plus, hein, quand ouais. Il fallait presser.
Mais parce qu'il y a un truc chez lui, je pense, c'est qu'il aime bien défendre en avançant. Par contre, le moindre repli pour lui, ouais. C'est compliqué. Et c'est aussi pour ça que ça justifie encore plus un Mbappé en pointe plutôt ouais. qu'un Mbappé côté dans un 4-2-3. Dans le 4-2-1, il n'a pas trop à le faire.
Mais d'ailleurs, ça se sent sur le match face à Naples, puisque très souvent, il est hors de position parce qu'il va absolument sortir sur Koulibaly. Alors que normalement, le jeu lui demande plus de fermer sur Rui et d'aider ses milieux. Quoi.
Et c'est ce que je mets un moment dans l'article pour l'équipe, c'est qu'à un moment, il y a Neymar qui, en cours de première période, qui le corrige et qui lui dit non, mais reste sur le côté parce qu'à chaque fois que tu sors sur Koulibaly, bah, ça passe dans ton dos. Et il comprend pas trop, il corrige petit à petit, mais il y a que le changement de système qui a vraiment rééquilibré le PSG.
Donc ça veut dire que il n'y a pas que un manque d'effort, il y a aussi un manque de QI foot sur cette partie-là du jeu précis, hein, j'entends bien, mais sur...
Chez Mbappé, oui, je pense. Ou alors une espèce de, je sais pas, d'instinct difficile à combattre, tu vois. Mais parce que je pense que chez Neymar, c'est plus un problème d'intensité ou de volonté sur l'idée de défendre. Quand il le fait, il sait le faire et il sait où sortir. Chez Mbappé, c'est plus compliqué à analyser. Mais c'est étonnant parce qu'il est tellement intelligent offensivement que le voir pas comprendre un truc assez basique défensivement, c'est...
Après, on parle des deux attaquants, mais il y a aussi d'autres endroits sur le terrain où en termes de volonté et d'intensité, ouais. Ça peut s'éteindre à tout moment. Et ça aussi, ça peut devenir beaucoup plus problématique. Là je parle évidemment. Pense évidemment à Verratti et surtout Rabiot, qui sur le match aller face à Naples, d'ailleurs, a priori, il serait pas parmi les titulaires sur le match retour. Mmh. Ça annonce Draxler à côté de Verratti. Mais c'est vrai que quand à la 25e, Neymar rate une passe et puis t'as l'impression qu'il souffle et qu'il se dit bon.
Après, ça, j'ai l'impression que c'est aussi lié au projet du PSG où c'est Neymar fait un peu ce que tu veux. Et c'est vrai qu'à la 8e, quand ça marche pas, à la 8e perte de balle en 25 minutes, tu fais.
Non, c'est vrai.
Mais bon, t'es un peu. Quand t'as un leader dans ton équipe, c'est ça quoi. T'as pas le même statut que lui, donc tu t'adaptes.
Bah, moi, je sais pas ce que t'en penses, Raphaël, mais. Alors ça est confirmé par le visionnage, mais même, ça fait quelques temps que dans mon esprit, Draxler-Verratti me semble plus adapté à l'intensité exigée en Ligue des Champions, au volume de course exigé, que Rabiot, qui pour moi se justifiait plus si tu étais dans un projet de jeu à la Laurent Blanc. Là, bon, t'as plus Matuidi, donc du coup, tu pourras plus avoir vraiment un joueur qui fait énormément de courses, mais malgré tout, Draxler est entre guillemets celui qui s'en rapproche le plus et qui peut le plus t'aider
Pas
pour aller d'un
parder.
but à l'autre sans sous par défaut, mais
Par défaut, ouais, parce que je pense qu'on n'aurait quand même pas imaginé en début de saison Draxler dans un milieu à deux.
Non,
à trois
absolument
peut-être.
Pas.
À trois dans relayeur. Et d'ailleurs, je crois qu'Emery l'avait fait un moment.
Emery l'avait testé.
L'an dernier, je crois qu'il le fait au Bayern et après, Draxler joue quasiment plus à cette période-là. Dans un milieu à deux, c'est assez nouveau. Alors, je ne sais pas s'il a le volume de course et le coffre pour faire les allers-retours, pour parfois compenser côté quand ça passe dans son dos, pour revenir se replacer dans l'axe quand ça va centrer, tu vois, pour défendre les centres en retrait, des trucs de milieu défensif qui, je pense, il a jamais connu, parce qu'en jeune, souvent, tu es encore plus talentueux par rapport aux autres, donc tu joues plus haut ou tu joues un poste plus libre. Je suis curieux de voir ça, parce que c'est aujourd'hui, lui, sa seule chance pour se réinstaller dans l'équipe, vu la priorité qu'a Di Maria pour Tuchel.
Après, ce qui est terrible avec Rabiot, c'est que ce genre de travail, il peut être énorme pour le faire, mais ça va durer 20-25 minutes, et il va s'éteindre pendant 20-25 minutes, en fait. Et ça, c'est vraiment problématique, et t'as l'impression que, sur tout ce qui est pressing à la perte et transition, le temps faible, autant en attaque, bon, le temps faible de Neymar, pareil, va moins produire, mais défensivement, si tu regardes les matchs du PSG où joue Rabiot, et il y en a de moins en moins ces derniers temps, mais les temps faibles correspondent au moment, je pense, où il est le plus éteint, quoi, à chaque fois. Et ça montre bien le volume qu'il peut avoir contre le volume qu'il a, mais qui est beaucoup plus irrégulier.
Et moi, ce qui me pose souci, c'est que sa nonchalance, alors je pense que son attitude exagère, et que du coup, tu vois plus quand il ne se replie pas et quand il fait pas de course, c'est pas... Enfin, il y a d'autres joueurs qui aussi parfois font des impasses, mais puisqu'ils ont un peu moins une attitude comme ça, tu fais pas forcément attention, mais elle se justifie pas forcément par son apport offensif. On en parlera tout à l'heure un petit peu d'Arsenal, mais Emery termine le match en faisant rentrer Welbeck et Lié et fait passer Iwobi latéral, ce qui est pas forcément, ce qui est pas son poste. Iwobi latéral fait une passe décisive pour Lacazette. Juste derrière, il a un oubli défensif qui est pas payé, mais où on voit que c'est absolument pas son poste parce qu'il est un peu perdu en mer, il sort au pressing un peu sans raison. Mais disons, la balance est équilibrée, c'est-à-dire que, ok, il t'apporte plus offensivement, enfin, c'est un problème défensif, mais il t'apporte plus offensivement parce que c'est un joueur offensif. Là, Rabiot, quand même, alors c'est peut-être un peu un délit de sa gueule de ma part, hein, mais j'ai pas l'impression que les courses qui s'épargnent défensivement sont comme un Neymar où tu dis oui, ok, ou un Mbappé, mais oui, mais son apport offensif compense le fait qu'il n'ait pas fait ce repli-là parce que du coup, il va te faire une passe verticale et il va te faire une projection. J'ai un peu de mal à voir ce qu'il peut vraiment t'apporter à part juste un peu plus de contrôle au milieu de terrain.
Autant à une époque, j'ai l'impression qu'il avait progressé et qu'il commençait à marquer quelques buts il y a 2-3 ans, même sur coup de pied arrêté, il mettait sa tête, il commençait à frapper de loin, il se projetait. Autant depuis quelques temps, peut-être depuis la saison dernière avec Emery, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup moins dans la surface adverse, qu'il a une zone d'activité moins large. C'est une impression visuelle, j'ai pas de stats derrière moi pour le prouver, mais tu vois, j'ai des mal à me souvenir du dernier match où Rabiot a fait 3, 4, 5, 6 frappes, quoi.
Et c'est pour ça que, en cours de saison dernière, on en avait parlé en tant que numéro 6.
Ouais.
Et on lui avait vu un avenir à ce poste-là, parce que justement, en revanche, sur les transitions, c'était toujours lui qui...
Ça date du 4-0 contre le Barça, où il joue avec Verratti dans un milieu à deux, il a un gros abattage, il arrive à trouver des passes vers l'avant plutôt simples, il participe aux sorties de balles, c'est son pic un peu au PSG, je pense.
Ouais.
Et depuis, c'est dommage, c'est que depuis, ça décline, en fait. Il n'y a pas eu de la progression qu'on aurait pu anticiper et imaginer après ce match-là. On se disait, c'est le futur numéro 6 du PSG quand Mota va s'arrêter.
Alors qu'il a 23 ans.
C'est ça qui est dommage. Et en même temps, il y en a d'autres qui explosent un peu pas le même profil, mais dans la même zone, quoi.
N'empêche que j'en parlais la semaine dernière, mais toutes ces délocalisations de joueurs, ça prouve quand même... J'ai l'impression que c'est de plus en plus en vogue, entre guillemets. Alors, sur ce match-là, il y a bien sûr Maximovic qui va faire des périodes en tant que latéral droit. Mais tu vois, je repensais, c'est vrai que maintenant, N'Golan joue numéro 10 à l'Inter. Tu vois, vous parliez de Emery qui délocalisait Draxler. Emery avait été aussi le premier, je pense, à mettre Matuidi et Lié. Tout le monde se foutait de lui. Finalement, t'es champion du monde avec Matuidi et Lié, même si c'est pas la même configuration. Mais c'est pour ça que finalement, ces joueurs à ce niveau-là ont tellement de qualité que si tu les mets dans le bon système, bah, du coup, tu peux exploiter un versant de leur qualité et du coup, les mettre à des positions qui sont pas forcément naturelles, mais où le dispositif va cacher leurs défauts, quoi.
Ouais, il y a quelques temps, il y avait Milner qui jouait latéral gauche, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est quand même souvent au départ des mecs qui sont capables de jouer milieu. C'est-à-dire que le milieu peut jouer partout, est-ce que les autres peuvent jouer partout, tu vois? Est-ce qu'on voit beaucoup de latéraux devenir milieu? Est-ce qu'on voit beaucoup d'ailiers devenir se recentrer et apporter vraiment une intelligence à l'intérieur? Je suis pas sûr. Alors que le milieu un peu vif, Il peut jouer à peu près partout sur le terrain dès qu'il a du coffre, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que Draxler, qui est un ancien ailier meneur de jeu qui revient se replacer à l'intérieur du jeu, ça peut être curieux à voir. Et je suis bah, justement ce match-là où il va jouer à côté de Verratti dans un vrai gros match. Ça, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer et quelles seront ses attitudes défensivement, notamment la perte de balle.
Florent, t'as des choses à rajouter sur ce Naples-PSG?
Non, je pense qu'on a fait le tour là.
Raph, t'as plus de volée.
Non, plus de volée, mais fallait qu'on reparle du PSG parce que ça se trouve, c'est une des dernières fois qu'on va en parler en Ligue des Champions si ça se passe mal.
C'est
Donc,
pas faux.
il
C'est
faut
vrai
que.
qu'on peut parfois donner l'impression de charger un peu la mule sur le PSG, mais si nos clubs devant Ligue Europa gagnaient plus de matchs, on aurait plus souvent l'occasion d'analyser leurs rencontres. Et puis c'est vrai que là, pour le coup, bon, peut-être qu'en mars, on n'aura plus forcément l'occasion de s'attarder sur le PSG. Alors, l'autre match de mardi, c'est le match à 18h55 entre Monaco et Bruges. Est-ce qu'il y a quelque chose à en dire, Florent?
Bah, tu dis Thierry ou Thierry? Non, mais
Je dis Thierry, comme tous
non,
les
mais
gens lettrés qui savent parler.
c'est l'occasion de faire une vraie aparté. Alors, il n'y a pas vraiment
On
de.
dit pas un aparté?
Si.
J'ai dit bon, un aparté, c'est vrai. Bah, tu vois, comme quoi je me décrédibilise tout de suite. Non, mais sur le problème Thierry ou Thierry, il n'y a pas de débat à avoir parce que j'en aurai pas d'argument et je sais que j'ai tort dans l'histoire, mais je voudrais savoir si je suis le seul à dire plus Thierry que Thierry. Puisque je trouve que Thierry, c'est bizarre à dire, et c'est limite sa force, t'as l'impression de lui dire ouais, t'as vu comme il y a un E dans ton nom, c'est trop bizarre. Alors que Thierry, je trouve ça plus normal. Je sais pas, il faut que les gens contribuent à cette discussion, mais c'est parce qu'on parle de ça, parce qu'on n'a pas plus de choses à dire que là-dessus
Mon
que sur
avis.
Monaco, parce qu'on n'a pas forcément vu leur match récemment, et puis ils jouent contre le PSG, je crois, dans une semaine, dimanche prochain. Donc ce sera l'occasion de faire un peu le bilan des premiers matchs d'Henry, où ça semble plutôt mal se passer.
Mon avis, je dis Thierry Henry, comme toi. Par contre, je dis Thievi Bifouma.
Ah oui, mais
Voilà.
c'est pas le même prénom, ça ne marche pas.
Mais ouais. Moi j'ai vu un peu Monaco ce week-end, mais honnêtement je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à en retenir. Donc on va éviter.
Non, mais on peut. Ah
C'est même pas
si.
que en fait, c'est même pas que c'est faible, enfin si, oui c'est faible, mais c'est qu'en fait je pense que c'est encore tellement bon. Un, t'as 150 blessés, donc c'est un petit peu compliqué, et deuxièmement je pense pas que ça soit vraiment ce que veut faire Henry, et que ses idées soient retranscrites même mal. Donc c'est-à-dire que je peux même pas dire oui le Monaco va dans la bonne, dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que je pense que Monaco là pour l'instant, il n'y a pas encore de vraie compréhension entre ce que veut faire l'entraîneur et ce que sont capables ou ce que veulent faire les joueurs sur le terrain. Donc du coup, c'est un peu difficile de se prononcer. Je pense qu'il faudra attendre quelques semaines pour vraiment savoir ce que veut faire
Ouais.
Henry. Là, il tâtonne un peu et je pense pas que
Il y a un petit
la
point à faire
retranscription
sur
soit.
Tielemans, qui est toujours aussi fantomatique.
Il sort à la
J'ai.
mi-temps là ce week-end,
Voilà, non, mais
remplacé par Koundé
c'est.
qui prend un rouge.
Parmi les. De tout l'historique de nos espoirs qu'on a fait, je pense que c'est celui qui a la pire trajectoire, peut-être. Et il y en a pourtant qui se sont un peu perdus, mais lui, depuis qu'on l'a cité dans le top, je suis pas sûr qu'il ait fait 3 ou 4 bons matchs.
Bah, je pense que
En
son pic à
sélection, il doit en
Monaco,
faire
c'est le
un ou
trophée des
deux.
champions. Son pic à Monaco, c'est le trophée des champions quand
Ouais,
il
c'est son
arrive.
premier match
C'est son
officiel
premier
en
match.
match. C'est terrible. On dirait la série The Night Of où le premier épisode est le meilleur et derrière, c'est ça.
On dirait le Michael Carter Williams qui fait son meilleur match en NBA sur
Ouais,
son
c'est
tout
ça.
premier match, où il passe pas loin du quadruple-double et qui ensuite disparaît dans les limbes. Donc Monaco-Bruges, on en parlera sans doute après, si on a quelque chose à en dire, parce qu'on verra le match, puisque le match est en horaire décalé, mais bon, ça. On attendra de voir ça. Lyon-Offenheim, le dernier volet du week-end. Ça, c'est un match de mercredi. Mercredi à 21h, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Florent, tu as vu Lyon ce week-end.
Et
Et
oui, parce qu'ils affrontaient Bordeaux.
tu as vu Lyon donc face à Bordeaux.
Il a
Et
surtout vu Bordeaux d'ailleurs.
je pense pas que tu aies vu grand-chose. Alors, j'ai pas suivi, mais j'ai vu les articles à droite à gauche. J'ai vu les commentaires de Lyonnais. Ça avait l'air d'être, même pour un match du Lyon de Genesio qui en championnat est assez irrégulier, ça avait l'air d'être peut-être le pire depuis un certain temps.
Non, ouais, c'était assez terrible. En fait, je vais d'abord parler de ma vision en tant que supporter bordelais au coup d'envoi.
Oh là.
Je vois, non mais je vois simplement le milieu à losange lyonnais. Donc l'équipe c'était retour de Fekir dans le 11 de départ. Depay Dembélé devant, leur milieu à 3 avec Aouar, Ndombélé et Touzard. Et puis Mendy, je sais, Raphaël à droite. Puis Marcelo Denayer. Bref,
Le 11 type en gros.
t'as ça en face, tu vois le losange, tu fais ça peut être compliqué quand même. Peu importe l'équipe en face, ça peut être compliqué pour l'équipe en face. Et en fait, on rentre dans le match, et puis au bout de 5-6 minutes, je me rends compte que Lyon n'arrive pas à récupérer le ballon, en fait. Et du coup, je me dis que bah, cette équipe-là, en effet, bon, sur le papier, c'est fort, mais s'ils n'ont pas la balle, c'est pas forcément un problème, parce que c'est pas forcément des gars qui vont avoir un gros volume pour défendre, etc. Et d'autant plus que le losange laisse naturellement beaucoup d'espace sur les côtés. Et bref, t'avais l'impression d'avoir affaire à une équipe qui ne savait pas défendre en losange, ne maîtrisait pas, pardon, le système de décompensation sur les côtés, etc. Est-ce que le latéral sort? Est-ce que ce sont les milieux qui coulissent? Bref, il n'y avait pas grand monde qui bougeait. Du coup, Bordeaux gardait la balle. Et finalement, sur la première mi-temps, Bordeaux prend un but à la dernière minute sur Aouar. Enfin, une belle reprise de Aouar. Mais au final, sur la première mi-temps, il s'est quasiment rien passé, mais parce que Bordeaux était incapable de créer, parce que dans les 30 derniers mètres, il se trouvait pas. Mais t'as pas du tout été mis en danger par cette équipe qui, sur le papier, normalement, doit te mettre le feu quasiment sur chaque attaque.
Ça finit à 17 tirs à 6 pour Bordeaux.
Ouais, c'est ça. Et ça accompagne des matchs ces dernières semaines où ils prenaient une trentaine de tirs contre Hoffenheim, je crois, ou 26, un truc comme ça.
En réalité, depuis le match contre City,
Ah oui,
c'est
c'est
une
depuis City
dégringolade.
quasiment. C'est depuis City. Et c'est vrai que peu importe le système, en fait, ce qui manque vraiment à Lyon, c'est un gros manque d'intensité. T'as l'impression que s'ils ne vont pas presser, ils ne savent pas comment récupérer le ballon. Il n'y a pas forcément de trappe, de piège, de prise à deux, de prise à trois, d'orientation des attaquants qui orienteraient vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est vague. Les mecs sont placés sur le terrain, mais ensuite, est-ce que je sors pressé, est-ce que j'attends? On sait pas trop.
En fait, on en revient à ce Lyon de Genesio qui a des super bonnes passes et puis après des creux terribles
C'est toujours la même chose, ouais, depuis
qui
3 ans.
ensuite, ça se trouve, dans 2 semaines, va lancer une série de 8 victoires où tu vas dire, ah, ça y est, c'est reparti, il va avoir un creux. T'as l'impression que la régularité est jamais acquise chez eux.
Généralement, quand tu regardes, j'avais fait l'évolution de leurs expected goals sous Genesio, et c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Ça va monter, descendre sur des périodes de ouais, 7-8 matchs. Et par contre, à chaque fois qu'ils touchent le fond, ils vont toujours réussir à remonter. Ça, c'est une constante, par contre. Dès que ça commence un peu trop à chauffer, alors soit Genesio, parce que quand ils sont en haut, il les laisse un peu tranquilles. Bah, du coup, quand ils sont en bas, il peut les rebooster parce que bah, forcément, vous touchez le fond, vous allez bien réagir, quoi. Ou alors, enfin, je sais pas. Mais c'est très bizarre comme évolution, parce que c'est vrai que quand l'équipe progresse, tu sais qu'elle va retomber à un moment donné, quasiment.
Donc en gros, c'est pas la carotte et le bâton, c'est le bâton et le bâton quoi. Et quand ça, il met des coups de bâton, quand c'est au plus bas, ça remonte, mais il
Oui, et
n'arrive
par contre, quand c'est tout
pas.
en haut, ils n'arrivent pas à maintenir ce niveau de perf, quoi. Et c'est peut-être que parce que quand ils sont en haut, il y a moins d'exigences, bah, les mecs redescendent chaque
Après,
fois,
c'est
mais
difficile
c'est
de savoir
cyclique,
parce que
quoi.
tu. C'est ce qu'on disait, je sais pas, il y a quelques temps, quand c'était l'époque où il y avait Mamana, Darder et tout ça, où tu avais l'impression que les mecs pouvaient faire un, deux bons matchs, se faire une place dans le 11, faire un mauvais match derrière et quitter le 11 pendant 2 semaines ou
Et
trois
c'était
semaines.
Diakabi qui arrivait.
Voilà, et il y avait toujours. T'as l'impression qu'il n'y a jamais cette stabilité, quels que soient les résultats, et que le moindre remous va remettre en question beaucoup de choses, peut-être un peu trop. Dans ce club, et inversement, le moindre succès va valider tout le monde, et tu vois, c'est.
Après, le truc, c'est que
Je sais pas s'il y a une
le.
vision à plus d'un mois, tu vois, sur. Je sais pas, c'est difficile de savoir.
Après, le truc, c'est que le 11 est assez connu aujourd'hui, le 11
Ouais.
type. C'est pas non plus les moments où, en effet, il y avait de la concurrence et Mamana Darder qui sortait, qui revenait, etc. Là, il y a un 11, mais c'est vraiment un manque. Enfin, sur tous les derniers matchs de l'OL, la constante, c'est le manque d'intensité, le manque de pressing. Si tu prends le match aller contre Hoffenheim, qui est un miracle, le
Ouais.
3-3, hein, on va pas se le cacher. En effet, Hoffenheim relançait à 3, donc il y avait 3 défenseurs. Genesio avait dit, je mets mes 3 attaquants sur les 3 défenseurs. Ok, ça c'était la première phase. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils font les attaquants? Et c'est là, sur ce deuxième truc, où tu vois sur ce match-là que les attaquants, ils savent pas du tout comment ils doivent défendre. Ils savent pas du tout si le défenseur qui prend la balle, je vais l'orienter vers le côté ou je vais l'orienter vers l'intérieur. Ce qui fait que le gars était posé comme un pion devant le défenseur. Bah, le défenseur, il avançait un peu, il se décalait un petit peu pour s'ouvrir une ligne de passe. Et puis ensuite, vu que Hoffenheim occupait parfaitement le terrain, parce que c'est vrai que à ce niveau-là, en termes de structure, ils avaient fait un match parfait. Et bah, à ce moment-là, le mec, il s'ouvrait une ligne de passe. Et puis derrière, ça déroulait jusqu'au but quasiment.
Mais là, si tu fais le. Je regardais, je faisais un point sur les stats. Sur les 4 derniers matchs, Nîmes, Hoffenheim, Angers, Bordeaux, à chaque fois, ils tirent moins que l'adversaire. C'est souvent un bon indicateur de la performance collective. Le PSG, ils ont deux tirs de plus, mais le PSG est à 10 pendant la moitié du match. Moins de plus, il me semble. Et Lyon-Shakhtar, c'est à peu près pareil. Lyon-Nantes, c'est à peu près pareil. Dijon-Lyon, ça gagne 3-0. Il y a un rouge des deux côtés. Dijon finit à 30 tirs contre 16 pour Lyon. Lyon-Marseille, victoire 4-2. Mais scénario compliqué. Marseille finit à 9 tirs. Ils ont un rouge en fin de match. C'est Marseille en même temps, donc c'est pas forcément un adversaire de qualité. Et c'était Manchester City-Lyon le match avant ça. Donc depuis ça, depuis ce moment-là, qui déjà faisait suite à une série compliquée où Lyon avait perdu à Reims, perdu contre Nice, fait 2-2 à Caen alors que Caen finissait à 9. Tu sais, à un moment, on était beaucoup sur la tactique avec Genesio, on se disait, ouais, il faut que ça. Et puis après, on a vu des bons matchs de la part de ce duo Genesio-Baticle, où si tu parles aux gens qui sont dans le foot, Baticle, c'est un super coach et il connaît bien la tactique, il sait préparer un match. Derrière, tu te dis, le problème doit être aussi ailleurs. Et ça, c'est difficile à analyser parce que t'as l'impression que les joueurs sont avec lui, leur adhésion. Mais peut-être parce qu'ils sont dans un relatif confort par moment dans une saison.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est purement une supposition, mais est-ce que l'effectif n'est pas plus composé de joueurs d'éclairs que de régulateurs et que tu n'as pas réussi à faire briller un Darder qui, lui, pouvait te structurer un peu ton jeu, donner le tempo, etc. Et que bah, quand tu es que ta ligne de paille, etc., bah, c'est un peu plus l'exploit individuel, Traoré pareil. Mais que c'est pas quelque chose de reproductible sur toute la durée d'un match et que si tu dépends trop d'individualités qui sont plus à briller sur des éclairs, bah forcément t'es à la merci de leur haut et de leur bas, sachant qu'en plus ils auront pas forcément un abattage défensif toujours au top.
Après, c'est la force de ton projet de jeu. Et là, le projet de jeu à Lyon, il y a des années où tu sentais que c'était vraiment l'idée d'être sur des transitions, des attaques rapides, même quand ils sont allés en finale d'Europa League. Là, cette année, avec les changements de système, les profils intégrés, les nouvelles recrues, est-ce que tu joues à deux avec Depay Dembélé devant? Est-ce que c'est la concurrence entre les deux? Il y a encore une mayonnaise qui n'a pas pris, mais surtout tactiquement contre Hoffenheim, ils ont été dominés dans tous les domaines. Et toi, qui as vu le match flow et qui l'a séquencé, il y avait beaucoup de problèmes sur comment on défend une fois qu'on sort de cette première phase de pressing.
Qui n'existait même pas en plus.
Qui en plus ouais, a existé pendant 10 minutes où ça a un peu bégayé côté Hoffenheim. Et puis dès qu'on est sorti de ça, c'était mais où, que font les trois attaquants quand la première ligne est battue, que font les trois milieux de terrain quand le ballon va à côté.
C'est ça. Et en plus, même en voulant régler le problème en jouant un peu plus bas sur le 4-5-1, il y avait les mêmes soucis, quoi. Mais aussi parce que comme je le disais tout à l'heure, Hoffenheim était parfaitement organisé. Tu avais toujours les deux attaquants qui étaient sur les deux centraux adverses, Kramaric et Demirbay, toujours dans les demi-espaces et toujours capables de se démarquer pour se montrer par rapport au porteur de balle. Et en plus, les latéraux derrière qui occupaient la largeur. Donc en face, il y avait quand même une équipe très bien organisée et qui a parfaitement profité du fait que l'OL ne les pressait pas. Et du coup, il y a une question qui se pose par rapport au match à venir mercredi. C'est est-ce que, sachant que l'OL est en position de qualifier à l'heure actuelle, est-ce qu'ils vont décider d'aller les chercher et d'aller presser, d'aller chercher haut, ou est-ce qu'ils vont décider de jouer plus bas et d'attendre? Parce qu'à mon avis, s'ils font le même match qu'à l'aller, avec le même niveau d'intensité, Hoffenheim ne ratera pas autant et surtout ne donnera pas autant. Parce que au match aller, ils donnent les 3 buts.
Puis là, des trois
peut-être
matchs,
pas le deuxième de Ndombele.
Des trois matchs qu'ils ont à venir, c'est peut-être celui le plus gagnable. Mmh. Alors qu'il n'est pas simple, mais c'est peut-être le plus gagnable parce que tu vas recevoir Manchester City qui ne sera pas qualifié et du coup qui voudra assurer la première place et qui va venir pour gagner. Et tu vas à Donetsk au dernier match, soit qui va jouer la deuxième place, soit qui va jouer la troisième pour aller en Ligue Europa et faire quelque chose là-bas. Et donc c'est. Là, sur le coup, c'est moins grave que le PSG, mais disons que si tu ne gagnes pas, ça peut vite se retourner contre toi quand même.
C'est ça, et puis en plus ça s'ajouterait à la série en cours, quoi, qui est quand même assez problématique quand tu vois les adversaires affrontés.
Puis on va pas être au oiseau de mauvais augure, mais si tu regardes Manchester City actuellement, je pense que même si Lyon fait le même match qu'à l'aller, il peut y avoir deux ou trois buts d'écart.
Bah, disons que les trajectoires des deux clubs se sont vachement inversées après ce match-là, où City, c'est vrai, faisait un début de saison bon en championnat, mais tu sentais certaines difficultés sur les gros matchs. Depuis, ils ont tarté tout le monde, alors que Lyon, depuis ce match-là, est en grande difficulté collective.
Oui, et puis en plus.
Et contre des équipes très moyennes en plus.
Oui, c'est ça. Ouais.
Oui, et puis même un match, par exemple, 1-0 contre Tottenham où City n'est pas bon, t'as une assise défensive. Et, alors, ok, il y a deux grosses actions pour Tottenham, mais je veux dire, si City est, je pense, la meilleure défense d'Europe sur quasiment toutes les valeurs chiffrées, c'est parce que tu concèdes rien. En fait, t'es jamais en position de défendre, quoi. T'as tellement une maîtrise absolue du jeu que t'as aucune situation difficile qui doit être rattrapée par les défenseurs. Et du coup, Laporte, qu'on avait vu en difficulté sur le match aller, qui est le joueur de City, le seul qui a joué toutes les minutes jusque-là en championnat, je me pense même en Coupe d'Europe, c'est aussi parce que City n'a jamais à défendre, quoi. Donc du coup, c'est plus facile d'être un bon défenseur quand tu dois, on va dire, sauver deux transitions en étant un peu vif, mais où tout le reste, sinon, t'es...
Ils ont pris deux buts sur les 10 derniers matchs. Soit les 10 derniers matchs, c'était juste avant le 11e, c'était le match contre Lyon. Donc, et pourtant, il y a eu des gros. Hein. Il y a eu Hoffenheim, il y a eu Liverpool, il y a eu Shakhtar, il y a eu Tottenham. Deux buts pris en 10 matchs. C'est pas mal.
Et je crois que c'est un penalty là sur.
Ouais, sur Southampton, ouais.
Sur Southampton, alors que Southampton a rien fait du match, ils auraient pu faire 8-0. Et l'autre, c'est un but de défenseur. Je crois que ils ont pris là un penalty et à bah, Lyon, c'est trois buts de défenseur.
L'autre, c'est un but de Belfodil à la première minute à Hoffenheim.
Ouais. Et sinon, en championnat, je crois qu'ils prennent Yedlin, ils vendent un défenseur, je ne sais plus lequel. Enfin bon, voilà, ça ne va pas forcément être facile. Shakhtar, je pense, c'est jouable, mais c'est jouable pour un super Lyon, quoi. Un Lyon qui, tu risques d'être aspiré dans le combat transition-transition, donc il faudra être en réussite. Et puis, il faudra remettre l'intensité, même si c'est un truc un peu bateau, dans le sens où Genesio en parle assez souvent et parfois il parle de ça alors que le problème c'est simplement la structure qui est pas bonne. Mais malgré tout, ça reste une composante que tu es obligé de mettre parce que si quand tu es face à une équipe du même niveau ou légèrement inférieure, enfin, si tu joues à 50%, à moins d'avoir une marge incroyable, tu peux pas gagner les matchs. Enfin, c'est très compliqué.
Bah, de toute façon, le parcours de Liverpool en Ligue des Champions l'a bien montré la saison dernière. Certes, il y a cette part immense de préparation du match, et puis après sur l'intensité, il y a quand même beaucoup de temps fort qui font que Liverpool va en finale, parce que 15 minutes contre City, ça met 3 buts, parce qu'à la Roma, ils démarrent très fort, alors qu'ensuite ils ont plus de mal. Donc, et c'est ce qui arrivait pourtant à faire Genesio sur pas mal de matchs, sur les gros matchs précédemment, et c'est ce qui manque depuis quelques semaines, de manière assez surprenante, parce que là-dessus, il n'y avait pas de... C'était peut-être la chose qu'il arrivait le plus à créer parmi toutes les composantes du foot de Lyon.
Mais c'est vrai que l'intensité, c'est pas forcément contraire au fait de produire, de proposer quelque chose offensivement. Enfin là, je regardais le match de Leeds de Bielsa samedi. T'avais une énorme intensité quand il s'agissait de récupérer la balle. T'avais aussi une intensité dans les courses pour proposer des solutions. Mais c'était au service de quelque chose. Et ça te permettait à la fois, donc du coup, de vite récupérer, donc de te remettre en position offensive. Et puis ensuite, avec toutes les courses, de pouvoir faire des superbes enchaînements, 1, 2, 3, décaler un mec qui partait en profondeur. C'est-à-dire, c'était pas juste courir pour courir ou aller mettre de l'impact dans les duels ou autre. C'était, on court, mais un, pour récupérer la balle, et deuxièmement, pour proposer des solutions aux porteurs de balles pour pouvoir construire des attaques.
Mais c'est ça, de toute façon, quand tu sais pas exactement ce qu'il faut faire, c'est compliqué de le faire avec intensité, en fait.
Ouais, et, quand tu vois que ça marche pas, tu le fais plus, donc ouais, tu voilà. Perds cette intensité.
C'est vrai que courir vite, généralement, si tu fais une course rapide à haute intensité pour aller dans une zone, c'est parce que tu sais qu'il y a un objectif dans le fait d'aller là. Enfin, quand Hoffenheim, sur le match aller, ça allait occuper des zones, tout de suite, tu savais que ton partenaire allait voir que tu étais démarqué, allait te servir, et toi ensuite, toute la construction d'attaque se faisait. Là, courir pour courir, tu vas pas le faire, quoi. Si tu sais que t'es pas sûr de récupérer le ballon, pas sûr d'être servi. Ou alors que si t'es servi, tu vas te retrouver seul le long de la ligne de touche. Bon.
Non, mais c'est ça, en fait. Déjà, si tu sais que ça fait pas partie d'un plan collectif qui a été mis en place, tu sais que ton action a moins de chances d'aboutir, qu'elle soit défensive ou offensive, donc tu vas le faire deux, trois fois. Puis à partir du moment où tu te rends compte que ton action n'a plus de sens au plan collectif, tu la fais plus. Et c'est aussi pour ça que parfois, quand une équipe sait pas comment elle presse, t'as l'impression qu'elle est molle. C'est pas qu'elle est molle, c'est que comme il n'y a pas de plan prévu, ça agit chacun de son côté, puis parfois ça agit plus, et en fait le fait de ne pas être structuré te fait avoir moins d'intensité encore.
Florent, est-ce que tu visualises plus Lyon qui irait chercher, qui irait presser, faire si c'est un 3, si c'est un 4-3-3, un 3 contre 3 sur les centraux d'Offenheim, ou au contraire attendre et essayer de les aspirer en se disant on a réussi à marquer à l'aller sans vraiment proposer quoi que ce soit, juste en attendant et en balançant devant, et tu gagnes un contre un et tu te procures une grosse occasion. Donc du coup, ça sert à rien de provoquer l'erreur parce que l'adversaire va se déstructurer lui-même en voulant essayer de marquer.
Non, je pense qu'il vaut mieux aller les chercher parce que Lyon a quand même une vraie capacité à jouer une ligne assez haute. Ils ont fait leur meilleur match cette saison en allant chercher, en tout cas leur meilleur période, ça va peut-être pas forcément durer des matchs entiers. Et puis surtout, la défense d'Offenheim, dès qu'elle est exposée, c'est vite compliqué.
Lourd en plus.
Ouais, c'est lourd. Et puis, les rares phases où l'OL a eu la balle à l'aller, Il suffisait de jouer en triangle sur les côtés et tu trouvais très vite des positions très dangereuses. Ndombele leur avait fait très mal au-delà de son but. Il a deux doigts de donner un but à Traoré en tout début de match, pendant le petit temps fort lyonnais, là, les 10 premières minutes. À gauche, entre Aouar, Mendy et je sais plus qui était le mec devant eux, c'était peut-être Depay.
Ouais, c'était Depay, ouais.
Mais bref, ils avaient.
Qu'était Axe, ouais.
Ils avaient aussi un triangle intéressant. Donc, ne serait-ce qu'aller les chercher haut pour récupérer plus de ballons et avoir ainsi plus d'opportunités pour attaquer et donc pour marquer, vu la défense en face, ça me paraît être le meilleur calcul parce qu'après, en termes de conversion et en termes d'efficacité des attaquants, en termes de talent pur, les attaquants de l'OL, à armes égales et à nombre de tirs égales, ils ont sans doute plus de talent pour mettre plus de buts qu'Offenheim sur ce match-là, quoi.
C'est ce que j'écrivais dans mon journal du jeu.
Oh là 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 là.
Que j'ai lancé sur les cahiers du foot, mais je crois que je l'avais dit aussi dans le podcast, mais Offenheim a vraiment besoin d'une structure très aboutie pour se retrouver là, parce qu'individuellement, pour moi, ils valent absolument pas le top 4 en Bundesliga. Ça peut faire 6-7 d'ailleurs avant l'arrivée de Nagelsmann. Ça jouait limite la relégation, alors que tu avais un effectif pas bien différent, alors que Lyon peut se permettre de se reposer plus sur les individualités. Mais du coup, si tu arrives à embêter la structure adverse, à sortir ces joueurs de ce qu'ils savent faire, forcément, tu vas vite leur poser un problème insoluble qui sera, t'as plus de qualité, donc les 1 contre 1, t'auras plus de chances de les gagner. Ah,
c'est tellement bien dit qu'on est resté bouche bée.
Tu n'as rien d'autre à ajouter, Raphaël, sur ce Lyon-Hoffenheim?
Non, c'est bon, tu peux nous envoyer vers d'autres cieux, Christophe.
Alors, on va pas parler de Ligue Europa, on parle de Ligue Europa, on parle pas de Ligue Europa, Raphaël.
On parle pas de Ligue Europa parce que les performances françaises ne méritent pas qu'on parle de cette compétition, alors que c'est une belle compétition et qu'on en parlera alors qu'ils seront éliminés et que ce sera les tours importants.
Oui.
Mais en Ligue Europa, il y a une équipe qui s'appelle
Arsenal. Merci pour la présentation, Florent.
Magnifique.
Du coup, tu m'as squeezé, j'allais rajouter un mot sur Ligue Europa, mais tant pis, on va profiter de ta transition. Pour parler d'Arsenal, Arsenal qui affrontait Liverpool ce week-end, vous avez tous les deux vu ce match, un match nul un partout. But de Milner, je crois, ouais, c'est ça, Milner peu après la mi-temps, et puis égalisation de la Lacazette en fin de match. Raphaël, ce qu'on retient, donc toi, on le sait, tu es plutôt sympathisant de Liverpool, mais malgré tout, Liverpool, on sait ce que c'est capable de faire. Là, c'est plus la surprise ou demi-surprise, selon comment on juge ça, mais Arsenal, qui commence vraiment à devenir une équipe très sérieuse en Première Ligue. Alors, ça n'a pas forcément bousculé les équipes qui jouent le titre, parce que tu n'as pas les habitudes de jeu de City, tu n'as pas non plus le même effectif. N'empêche que là, on voit où ça veut en venir, et ça commence à installer quelque chose de vraiment pas mal.
Bah, je réfléchissais un peu pendant que tu posais ta question à la dernière performance d'un gros contre Liverpool qui avait vraiment secoué Liverpool, et j'en trouvais pas de récente. Chelsea a un peu embêté Liverpool, mais pas à ce point-là. Là, c'est la première fois depuis longtemps que je vois Liverpool vraiment dominer quasiment de A à Z. Alors il y a eu des séquences où Liverpool a embêté Arsenal, notamment avec du jeu long dans la profondeur, où c'est allé chercher Mo Salah, parfois un peu Mané. Mais en termes de construction, de pressing, de variété dans le jeu, j'ai trouvé Arsenal meilleur dans ces domaines-là que Liverpool. Ils savaient comment ils voulaient presser, ils savaient comment ils voulaient attaquer. Ça va vite avec le ballon, ça combine très bien. Tu sens que les joueurs se comprennent entre eux, que Lacazette, Ozil, Aubameyang, il y a des schémas qui sont mis en place. On construit sur des actions à deux, puis à trois, avec du jeu de face, avec un Ozil très important et qui s'éclate dans cette équipe. Même Chaka m'a impressionné, alors que c'était un joueur qui était en perdition complète depuis 2-3 saisons et que je trouvais, dans le plus simple sens du mot, mais bête. Et qui là, je trouve, par contre, sait quoi faire de ses qualités, et c'est aussi ça le rôle d'un coach, c'est de montrer aux joueurs comment ils peuvent aider le reste de l'équipe avec leurs qualités. Là, j'ai trouvé ça bien. Torreira qui fait un bon match aussi. Et tu le dis, c'est la première fois que l'Arsenal depuis longtemps est une équipe sérieuse, c'est-à-dire qu'ils vont jouer contre un gros. Et tu vas pas arriver sur le match en disant « Bon allez, on vient voir Arsenal se faire humilier ou se faire ridiculiser dans un gros match. » Et tu regardes le match et tu te dis « Ouais, ok, Emery a trouvé son identité de jeu, où il y a beaucoup de passes au sol, où on prend du temps pour ressortir. Mais par contre, une fois qu'on est ressorti, on retrouve cette vitesse qu'il a bien, cette verticalité, avec des joueurs qui en plus sont capables de le faire. Et là, tu trouves une équipe vraiment… » Alors, il y a encore, je pense, quelques limites à la fois individuelles et collectives, et un peu de retard sur ce que peuvent faire City, Liverpool, Chelsea en termes de maîtrise d'un match. Mais par contre, en termes de plaisir donné et de plan et de préparation d'un plan de jeu contre un adversaire, c'est quasiment le jour et la nuit par rapport à ce que pouvait proposer Wenger sur ces 2-3 dernières années.
Je sais pas ce que tu en penses, Florent, mais j'ai l'impression que Arsenal, sur les dernières années Wenger, c'était un peu la caricature du, à dire, du mauvais panache. C'est-à-dire que tu essaies de jouer l'offensive avec des idées, oui, on construit au sol, avec pas mal de joueurs, donc à vocation offensive, mais que puisque c'était pas structuré, bah, un, quand tu perdais la balle, t'étais un peu disposé à n'importe comment, donc du coup, tu prenais des buts sur la transition qui suivait, et même t'avais de la créativité, mais créativité mal cadrée. Alors que là, finalement, en rajoutant, mais c'était le souhait de longue date de la plupart des fans, Torreira en tant que numéro 6, milieu un peu destructeur pour arrêter les attaques adverses et pour vraiment avoir, enfin voilà, ce point un peu le N'Golo Kanté de
Mais il est bon
Chelsea.
techniquement en plus, hein. Il est
Oui, en
bon
plus,
techniquement,
oui, bien
Torreira.
sûr.
Voilà.
Mais disons, c'est pas un trou noir quand t'es en possession, mais qui peut arrêter les attaques adverses. Mais du coup, finalement, de rajouter un joueur qui sera quand même plus dans la destruction du jeu adverse avant d'aider à construire le tien, ça permet justement aux autres de pas devoir faire des dépassements de fonction en devant défendre alors que c'est pas ce qu'on leur demande. Et du coup, chacun peut un peu rester dans son truc. Et là, chacun était plus, même s'il fait deux, trois retours, plus dans l'organisation. Il a pas à dépanner sur ce rôle plus défensif parce que Torreira s'en charge déjà.
Ouais, et puis ça lui évite de faire pas mal de fautes, etc. Parce que c'est un petit peu son habitude à chacun l'année dernière. Mais non, mais Arsenal, au final, c'est pour parler un peu d'Emery, il retrouve un club à sa taille, en fait, t'as l'impression. Moi, je le trouvais sur le banc de touche.
Ah bah alors le problème c'est qu'Arsenal soit à la taille d'Emery, parce qu'à une époque c'était
Ouais, mais d'où ça repart, c'est une équipe de Ligue Europa aujourd'hui.
après c'est vrai que ce qui est bien pour lui c'est qu'il n'y a aucune star au-dessus du
Non, c'est
projet de
ça.
jeu, et même Özil qui est la vedette est de toute façon un joueur de projet de jeu, donc ça lui colle.
Et puis en plus, dans ce rôle de numéro 10, là, il est parfait, il y a du mouvement partout autour de lui, ça va vite, il y a des incursions, je parlais de celle de Torreira en début de deuxième mi-temps, là, où Alisson claque, on met les points, je sais plus.
Ouais, il claque une frappe en
Aubameyang, qui
corner.
est très intéressant à apporter de la profondeur depuis le côté gauche, Lacazette
Excellent, ouais.
qui est parfait dans ce rôle de pivot au sol, et ça colle parfaitement au jeu d'Emery d'ailleurs. Emery avait dit en conf de presse que lorsque Lacazette était à Lyon et que lui était à Paris, il n'aurait pas dit non pour le récupérer. Hein. Toi non plus d'ailleurs, Raphaël,
Ah
tu
bah
n'aurais
là,
pas
si
dit non.
tu mets Neymar, Mbappé derrière la casette, tu...
Ouais,
Enfin...
il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que cette équipe d'Arsenal est très cohérente. Comme je le disais sur Emery, tu as l'impression qu'en termes de charisme, il a regagné des points de charisme de manière assez impressionnante, même si ce n'est pas non plus la folie. Mais
Mais
c'est vrai qu'il est beaucoup plus
c'est.
directif, beaucoup plus sûr.
Bah, quelque part, c'est la star de ce projet aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, mais c'est vrai que sur le terrain, je m'étais fait la
Et puis,
remarque quand je regardais le match, dès qu'il y avait des plans sur lui, et ça transpirait moins la crainte que quand il était sur le banc du
Bah,
PSG,
il
quoi.
arrive dans une équipe qui a besoin d'un nouvel entraîneur, alors que quand il arrive au PSG, il arrive dans une équipe qui certes avait des failles,
Mais
mais
qui
qui n'était
gagnait
pas
en tournant toute
en.
seule, en
En
fait.
grand besoin d'un changement de cycle sur le plan des résultats purs, alors qu'Arsenal, les joueurs ne pouvaient pas justifier le fait de ne pas adhérer au nouveau projet d'un nouvel entraîneur, parce qu'ils font de la merde depuis 2-3 ans. Donc, quand un entraîneur arrive et qu'il leur dit maintenant ça va être ça, bah oui, ça va être ça. Et pour le coup, ce qu'il essaye de faire est plutôt séduisant, alors que j'aimais pas trop ce qu'il faisait à Séville par moment. Là, c'est plutôt bien, et puis ça marche. Alors, je pense qu'ils sont en surperformance un peu quand tu regardes les
Oui.
stats avancées. Mais par contre, l'impression visuelle contre Liverpool a vraiment été forte.
Et en termes de. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est les passes dans la surface adverse, dans les 20 derniers mètres, où ils arrivent à se hisser derrière. Bon, évidemment, largement derrière Manchester City, mais ça talonne Liverpool et Chelsea. Par contre, c'est vrai que défensivement, il y a encore un vrai
Ouais.
gap entre les deux.
Mais c'était
Et
surtout sur les premiers matchs, parce que là, ça accède mieux quand même.
c'est vrai que quand tu regardes en termes de qualité d'effectif, autant milieu et devant. Ils ont des joueurs prometteurs, ils ont des joueurs assez jeunes et ils ont de quoi faire en termes de banc aussi. C'est vrai que derrière,
Sur
tu
la
tombes très
défense
vite
centrale, le
sur
gardien,
des joueurs
les
limités.
latéraux, c'est...
Bon, on va citer les quatre, là, justement, c'est sur
Ouais.
ça que j'allais vous lancer, sur ce match-là. Alors, tu as des absences ou autres, hein, mais c'est Bellerin à droite, c'est Kolasinac à gauche, et Holding Mustafi dans l'axe, avec Leno dans les
Défense
buts.
centrale. Quand tu fais la
Comparaison avec City, Liverpool, Chelsea, qui recrute des gardiens ou des centraux depuis 2-3 ans à prix d'or, tu comprends l'écart. Hein. Mais je pense que
Là,
c'est aussi...
honnêtement, la plupart des joueurs, pour moi, c'est du milieu de tableau anglais, quoi.
Ouais,
Enfin,
alors t'as peut-être...
Holding, enfin,
Oui.
même Leno sur ce match-là, alors je pense qu'il vaut un peu mieux que ça, mais...
T'as peut-être Bellerin qui, dans une grande forme, est un bon latéral de niveau européen, quand même. Mais c'est vrai que les trois autres, Kolasinac, c'est bien, il pourrait aller à la salle avec Shaqiri,
Je pense qu'ils doivent se faire des concours incroyables. Si Van Dijk passe dans le coin, il y a des.
Non, mais tu vois, enfin, c'est là que le bas blesse pour l'instant. Mais si l'équipe est. Déjà, en fait, même s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, s'ils ont déjà cette espèce d'impression positive où tu sens que l'équipe progresse et qu'elle est bonne dans les gros matchs, ils pourront changer un peu leur fusil d'épaule sur le recrutement où maintenant il faut viser des centraux à très gros potentiel. Tu peux aller en chercher en Ligue 1 comme ça. Pour ensuite avancer. C'est vrai que sur ces postes-là, il y a eu un peu, pas un abandon, mais ils se sont contentés de joueurs moyens depuis quelques temps.
Ah, ils ont acheté beaucoup en plus. Hein.
Mais oui, te rappelle-toi, Gabriel, Mustafi, même Mertesacker à l'époque n'était pas un grand défenseur. Un grand défenseur.
J'ai vu aussi qu'ils étaient sur les rangs pour récupérer Malcolm cet hiver en prêt. Et c'est vrai que si
tu étais bien.
En l'imaginant, si ça se fait sur le côté droit, pour compléter avec Özil. Lacazette et Aubameyang.
Ah, là, il y aurait diagonale Malcolm Aubameyang.
Ouais, exactement. Il y aurait de quoi faire. Ouais. Ça pourrait être un
Malcolm
renfort
qui pourrait
très intéressant.
S'appuyer sur Lacazette pour reproposer derrière. Non, ça serait bien. Après, c'est vrai que sur le. De toute façon, tu vois ce qu'a fait City. Ils ont recruté Otamendi, puis ils ont recruté Laporte, ils ont recruté Stones, ils ont recruté Ederson. Chelsea, ils ont recruté Rudiger, ils ont recruté Kepa. Liverpool a recruté Van Dijk et Alisson. Arsenal va devoir se renforcer sur ces postes-là aussi parce que Leno. En fait, même en termes de jeu au pied, dans ce que veut faire Emery, c'est pas encore au niveau maximum. Et puis sur l'aspect purement défensif, il était déjà en grande difficulté en Allemagne. Ou si tu regardais les stats avancées des gardiens, c'était pas un bon gardien en Bundesliga depuis 2-3 ans. Et ça l'est pas aujourd'hui en Première Ligue.
Jusqu'où tu vois Arsenal aller peut-être pas cette saison, Raph, mais sur la construction d'effectifs. Là, tout à l'heure, tu comparais avec City-Liverpool. Club Guardiola, on est quand même sur de l'année 3 ou 3,5 pour les deux.
Ouais.
Est-ce que si on se projette d'ici un ou deux ans, Arsenal peut... Parce que je pense quand même que le potentiel intrinsèque d'Arsenal, même sur les investissements financiers, etc., est supérieur à Tottenham,
oui.
qui est vraiment, là, je pense, sur l'aboutissement des idées de Pochettino, etc. Mais là, ça commence à stagner parce qu'au bout d'un moment, tu es quand même limité par...
Et Tottenham qui va perdre Pochettino un moment et ça va être très, très, très difficile de le remplacer.
Là, je pense que le top 6 redeviendra un top 5, à mon avis. Sauf si tu chopes vraiment un très, très gros coach.
Si tu perds Kane en même temps et tout ça, il y a toute une génération qui peut s'effacer. Eriksen, Vertonghen, Alderweireld, toute cette génération-là, ça va être difficile. La chance d'Arsenal cette saison, c'est que United n'est pas très bon et que tu peux imaginer gratter un top 4 parce que tes concurrents sont moins forts que les saisons passées. Je pense que City, Liverpool, City déjà est au-dessus du lot, largement, aussi bien en termes de jeu que de stats avancées. Chelsea et Liverpool sont un peu en dessous. Je pense que Liverpool est quand même devant Chelsea. Et derrière, il y a un autre groupe fait Tottenham, Arsenal et United où je pense qu'Arsenal a la spirale la plus positive des trois et le plus de progrès dans le jeu de la saison dernière à cette saison-là. Donc s'ils arrivent à gratter le top 4, tu peux relancer vraiment une ère positive en imaginant que Emery reste sur la durée, ce qui lui est pas arrivé souvent jusqu'à pendant sa carrière quand même.
Ouais. Non, en gros sur la saison à l'heure actuelle, je pense que par rapport au projet qui vient de démarrer avec Emery, qui est sans doute sur 2-3 ans comme tous les projets de coach aujourd'hui, s'ils terminent top 4, ils gagneront un an dans leur progression et par rapport à ce qu'ils ont imaginé, parce que là je pense que sur la saison en cours, évidemment faire du mieux possible en championnat, mais si c'est hors top 4, tant pis. Ajouter à ça un bon parcours en Ligue Europa parce que c'est sa patte depuis.
Que si tu la gagnes, t'es en Ligue des Champions et là
en plus, c'est vrai. Et je pense que eux l'objectif c'est ça aujourd'hui. Mais que c'est vrai que s'ils font top 4 à la fin de la saison, ce dont je pense qu'ils sont capables à l'heure actuelle. Comme vous le disiez sur la dynamique de Tottenham, j'ai du mal à les voir tenir.
La marge de progression n'est pas énorme.
Et puis ça commence à stagner. Et donc je les vois bien être armés pour finir dans les 4 à l'heure actuelle. Et ensuite, à voir ce qu'ils feront cet hiver en termes de recrutement et surtout l'été prochain s'ils se mettent en effet sur ce fameux central qui pourrait peut-être leur permettre de franchir
central,
un palier derrière.
Ce latéral gauche, ce gardien, ou les trois, il faut des tops ou des futurs tops.
Et clairement, vous avez pas cité, mais je suis pas sûr que Chelsea soit forcément à l'abri du retour d'Arsenal. Je trouve que les 27 points de Chelsea sont ultra bien payés, que la maîtrise de Sarri te permet, que son jeu te permet d'avoir la balle 70% du temps, mais qu'en fait c'est pas, ça t'offre pas de la création, ça endort surtout l'adversaire. Et qui t'as tellement de talent individuel, même si là Hazard a raté quelques matchs, mais de Morata qui peut quand même faire un exploit, de frappe de loin, de coup de pied arrêté, de Hazard, qu'en fait passer la plupart de ton match dans le camp adverse, bah, tu finiras bien par marquer un but, et comme l'adversaire sera réduit au silence, et ben, tu concèderas peu d'occasions, donc tu peux assez facilement gagner des matchs 1-0, mais sans proposer grand-chose collectivement. Mais je suis pas sûr que si tu perds Hazard pour 2 mois et Morata est un peu en crise de confiance, ou fallait encore le match du week-end, le but encaissé, David Luiz est en train de naviguer, on ne sait pas trop où, dans la défense. Je pense que Chelsea, sans forcément s'écrouler, hein, mais je trouve que c'est assez bien payé et que le début de saison n'est pas forcément dans le jeu bien supérieur à ce que fait Arsenal, mais juste que ta philosophie de jeu te protège défensivement, en fait.
Ah, après, t'as le facteur Europa League où faut voir à quel moment les considérations des deux coachs vont être différentes et ce que ça va vouloir dire pour le reste des compétitions et notamment le championnat, où tu sais que Sarri, depuis le début de sa carrière, n'a rien à foutre de l'Europa League. Alors si Chelsea se retrouve à un moment où ils ont besoin de la gagner pour se qualifier en Ligue des Champions, ça peut devenir un truc. Je pense qu'Emery, par contre, lui, adore cette compétition l'adore, et du coup, à partir de là, pour l'instant, il met un peu des équipes B ou entre A et B, mais dès que ça va être les 16e, les 8e de finale, Arsenal va la prendre à fond et au sérieux et mettra sa meilleure équipe, alors que Chelsea, je suis pas sûr du tout.
Alors, sur l'effectif, Chelsea est quand même mieux équipé en plus, donc c'est-à-dire que tu peux mettre l'équipe B et quand même aller assez loin. Tu vois, là je regardais contre Borisov, qui est pas une super grande équipe, qui est un peu stagné, même régressé par rapport aux dernières saisons. Je crois qu'ils avaient fait une fois un nul contre le Bayern, enfin en tout cas c'était plutôt une bonne équipe. Là donc sur le match contre Borisov, ils gagnent 3-1, c'est une équipe mixte, voire bis, mais t'as quand même c'est pas des génies du foot, hein, mais Zappa Costa, Christensen qui est un peu disparu par rapport à l'an dernier, Kovacic qui maintenant est relégué derrière Barkley dans la hiérarchie, Loftus-Cheek qui met un triplé, Giroud, bon, qui est en balance avec Morata. N'empêche qu'avec ça, tu te dis, ah oui, c'est une équipe avec pas mal de remplaçants, mais tu peux quand même passer pas mal de tours. Ça reste quand même assez solide.
D'ailleurs, les deux sont, je regardais sur les sites des bookmakers la dernière fois, les deux sont les deux favoris de la compétition pour le moment, en attendant bien sûr que les troisièmes de Ligue des Champions soient reversés en Ligue Europa.
Ça marche. On a fini le volet actu.
Oui, mais on reparlera sans doute de Première Ligue dans un podcast à venir où on convoquera notre grand ami Julien. On
l'obligera Julien Beaumont, la star des palettes.
À notre table pour nous parler de la Première Ligue, puisque cette année encore, c'est un championnat passionnant où, comme la saison passée, la première place risque d'être assez vite décidée, même si pour l'instant, c'est pas le cas. Mais par contre, derrière, c'est peut-être encore plus fort que la saison passée.
Moi, je vais vous faire un bonbon express en disant que là, je suis devant la rediffusion de Valence-Gérone et que Valence, qui continue à ne pas gagner un match, là, ils ont perdu 1-0. Je pense qu'il faut consulter un marabout. Parce que là, je ne comprends pas comment Valence ne peut pas mener 4-0 entre les buts refusés, parce que la balle sort d'un millimètre, les 3-4 face à face ratés. Le gardien adverse, le dénommé Bounou, un gardien marocain qui arrête tout. Je pense qu'on est sur l'un des hold-up de la saison, donc courage à Valence.
Mais il faut que Marcelino fasse attention, parce qu'il pourrait réussir l'exploit d'être viré de deux clubs du même coin, Villarreal puis Valence. Ça n'a pas dû arriver à beaucoup d'entraîneurs. Il doit y en avoir de Première Ligue qui ont été virés de deux clubs londoniens. Ah, Villas-Boas, Chelsea et Tottenham, très fort. Mais qui a un super coach, Marcelino, mais qui a tous tendance à finir en queue de poisson ses périodes d'entraîneur. Là, il sort d'une quatrième place avec un bel effectif qui a été renforcé en plus. C'est très bizarre de voir la saison de Valence se dérouler comme ça, alors que je les imaginais encore plus fort que la saison passée.
Et puis, tu citais Villas-Boas. Pensez quand même pour Giuseppe Iacchini, qui avait été viré deux fois de Palerme à 4 mois d'écart. En 2015-2016, l'exemple Parini qui virait tous ses entraîneurs.
Après, quand tu signes à Palerme, tu sais où tu vas, tu vois.
Viré le 10 novembre, repris le 15 février et viré le 10 mars.
T'es conscient que t'es pas sur du très sérieux en termes de relations quand même.
Ouais, à l'époque c'était assez compliqué. Bon, allez, on passe, fini de rire, maintenant on passe sur du sérieux, sur les paris, les moments de gagner de l'argent avec PMU.fr.
Et d'en perdre.
Qu'on a un peu moins enrichi récemment, puisque Florent était sur une série de 7 paris réussis sur 8. Oui, je sais pas ce que vous avez fait ce week-end, messieurs, là, j'avoue.
Sur 2, je crois, la semaine dernière, je crois aussi, toi.
Non, mais il faudrait qu'on fasse, hein. Il y a quelqu'un qui nous suggérait en préambule des paris de résumer les paris la dernière fois pour les citer et dire qui a gagné ou pas. On devrait faire ça. Là, j'avoue qu'on a encore zappé. Il me semble qu'on était correct.
Je crois qu'on en fait un sur deux chacun.
Sans transcender non plus le monde du pari.
D'ailleurs, rien à voir, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Twitter, le dénommé Axel9, qui me demandait, entre guillemets, des conseils et de notre méthode pour regarder et analyser des matchs. Je pense qu'il faudra quand même un jour que chacun dise comment est-ce qu'il regarde et qu'il analyse un match.
Non, parce que c'est là qu'on va se trahir.
Non, mais est-ce qu'on regarde, je sais, par exemple, Julien et moi, on regarde pas du tout la même chose. Lui regarde très rapidement le système. Moi, je regarde ça en dernier, quoi, le dispositif. Je regarde plus les hauteurs de bloc, etc. Enfin, bon, un jour, peut-être que ça vaudrait le coup d'en parler. Donc, les paris, on va commencer par toi, Raphaël, puisque tu fais un peu le fanfaron. Un pari sur Lyon-Offenheim.
Oui, Lyon et Offenheim, dont on a longuement parlé, donc je ne vais pas m'expliquer très longuement sur ce pari. Le pari, c'est que les deux équipes marquent et que l'une d'entre elles va gagner, par rapport à ce qu'on avait dit sur le besoin pour les deux équipes d'ailleurs de gagner, parce que Offenheim, si ça gagne pas, ça va être un peu condamné, et Lyon, si ça gagne pas, ça risque de se retourner assez rapidement. Ces deux équipes qui, défensivement, pour des raisons différentes, Lyon collectivement et Offenheim individuellement, ont du mal à garder leur cage inviolée. Deux équipes qui ont des attaquants de qualité et pour des raisons différentes aussi peuvent marquer beaucoup de buts. Donc je pars sur ça, deux équipes marquent et l'une d'entre elles gagne, c'est à 1,74. C'est un petit pari, comme je m'y mets depuis que je suis nul. Et j'espère qu'il va passer parce que je garde l'espoir un jour de faire une série qui battra celle de Florent.
J'allais dire 1,74, c'est ta taille, mais non, en fait, tu es plus petit que ça.
Non,
Donc
je fais. Alors, j'ai été mesuré par un médecin récemment à 1,73 m, ce qui m'a surpris, puisque c'est complètement faux et je pense qu'il m'a menti pour me fidéliser.
c'est
Donc,
comme en NBA, en fait, si tu as mesuré avec chaussures.
voilà, c'est ça, exactement. Non, je suis entre 1,70 et 1,72, on va dire.
Alors, ok. Donc, deuxième pari, qui est aussi pas très risqué, j'avoue. Y a pas beaucoup de charisme sur tes paris.
Je parie sur un
C'est
match qui
Monaco-Bruges.
concerne Thierry Henry. Thierry Henry, qui le
Thierry, on dirait
Monaco
un nom de
de
Pokémon. Hein,
le Monaco de Thierry Henry qui reçoit le Club Bruges qui a réalisé un bon match à l'aller contre Monaco sans être payé, et là qui se déplace à Monaco, qui la cote est à 2,05, c'est que Bruges gagne à Monaco, et si ça passe pas, en tout cas si ça fait match nul, c'est remboursé. Si Monaco gagne, je perds 100 000 euros. Si c'est Bruges gagne ou s'il y a match nul, je m'en sors plutôt bien. C'est à 2,05 et vu les courbes des deux équipes et ce qu'elles ont montré au match aller, ça me paraît pas fou. Et c'est pour ça que je pense que ça va encore se passer difficilement pour l'équipe de Thierry Henry.
L'argumentation est assez courte.
Oui, parce que
Je te sentais pas
c'est.
très inspiré, ou alors tellement dépité par
Non, mais en
Monaco
vrai,
que du coup.
j'ai choisi ce match juste pour préciser que je voulais suivre ce qui allait se passer pour l'équipe dirigée par Thierry Henry.
Si tu arrêtes de m'entendre parler, c'est juste que j'ai déconnecté et que je suis parti. Florent ou Florente, peut-être que Raphaël pourra commenter parce que je ne sais pas prononcer les noms. Toi, ton premier match, c'est Manchester City contre le Shakhtar Donetsk.
Et oui, le même groupe que Lyon-Offenheim, parce que sinon j'aurais placé un pari aussi sur Lyon-Offenheim, et dans le même esprit. D'ailleurs, Raphaël, tu avais passé après le match aller Lyon qui marque dans les demi-temps,
Oui.
qui était à 3, une cote un peu plus intéressante. Là, du coup, c'est donc Manchester-Shakhtar. Manchester a gagné 3-0 à l'aller sur la pelouse du Shakhtar. Je pense pas que ça parte non plus dans des tours exceptionnels parce que City en Ligue des Champions, ils aiment bien faire la différence assez vite et ensuite on fait tourner assez tranquillement et on passe un peu le temps. Du coup, c'est de jouer la victoire de Manchester City évidemment dans son stade et moins de 3,5 buts dans le match. La cote est à 2. Ça me paraît plutôt pas mal en espérant que le Shakhtar ne marque pas parce que j'imagine plus un 3-0 qu'un 2-1. Par exemple. Donc voilà, après, en termes d'écart entre les deux équipes, il a été quand même assez clair à l'aller. Donc je vois pas pourquoi il serait moins clair sur le match retour.
Et t'imagines pas le Shakhtar tellement emballer le match que ça concède énormément de transitions et que du coup ça s'enflamme en fin de compte. Parce que le Shakhtar, je me souviens à l'aller, j'avais vu le match même mené de plusieurs buts. Au
Oui, ça
lieu de
continue quand même.
fermer, de se dire, bon bah écoute, on peut plus gagner, on peut plus gagner. Non seulement ça ne trahissait pas la philosophie, mais limite ça allait encore plus de l'avant. Ça me rappelait un peu le Rayo Vallecano de Paco Remez, qui des fois perdait 4-0 et qui du coup, bon bah on va rajouter un attaquant. Donc du coup ça en prenait 8.
Ils avaient pris combien à Bernabéu?
De
10?
10-2.
10-2. Le score le moins foot de l'histoire du foot.
Non, enfin, si, bien sûr, ça peut
J'essaye
évidemment
de te
partir en
mettre en
transition, mais
danger,
je
hein,
serais
je
ennuyé.
te.
Voilà.
D'accord.
C'est comme quand on parie un Milan-Sampdoria 0-0 à la
Mais
mi-temps et 4-2 après 30 minutes de jeu.
comment tu oses remettre en question les paris de l'homme qui a fait un 7 sur 7?
Ah non, mais je teste la fiabilité et la solidité de son argumentaire.
Et du coup, 8 sur 10 si on prolonge depuis.
Et je vois que son argumentaire n'est pas très solide, puisque
C'est que j'ai fait 7 sur 7.
au lieu d'essayer de défendre son choix, il se résout à attaquer les miens. Donc, ce qui ne répond pas à la question, à savoir est-ce que son choix est bon. C'est pas parce que les miens sont mauvais que les siens sont bons.
C'est un bon, contre-pressing.
Écoute, ça ne surprend pas de toi, Florente, n'est-ce pas, Raphaël?
Oui, très bien, merci, le dieu cuche.
Le dernier pari, je ne vous supporte plus. Il faut vraiment vous séparer tous les deux, parce que c'est compliqué quand vous êtes ensemble. Tottenham PSV, pourquoi ce choix? Pourquoi ce pari? Quel est ton pari, Raphaël? Raphaël, Florent, dis-nous tout.
Parce que je n'étais absolument pas inspiré sur le reste. Tottenham PSV, ça avait fait 2 buts partout au match aller. Avec, je crois que Tottenham prend le premier but, mène 2-1 et se fait égaliser à la fin.
Ouais, avec le rouge de Lloris juste avant le 2-2. Ouais.
Là, l'idée, c'est d'imaginer, d'espérer que Tottenham passe à nouveau une clean sheet, eux qui ont quand même quelques problèmes défensifs cette saison, avec en plus parfois Lloris qui fait des siennes avec des sorties improbables. On peut se rappeler du match face au Barça, notamment, qui a permis au Barça de bien rentrer dans le match. Sur les 2 derniers matchs en championnat, Tottenham,
ils gagnent 3-1 contre West Ham et 3-2 contre Wolverhampton. C'était en coupe, pardon, ils perdent contre City 1-0.
Mais c'est 2 matchs maîtrisés pour le coup, puisqu'ils mènent 2-0 et 3-0, et finalement ils prennent 2 buts en fin de match, enfin 1 but et 2 buts dans les 20 dernières minutes. L'idée là, c'est de se dire que face au PSV, ils vont peut-être être capables de tenir leur clean sheet jusqu'au bout et de pas craquer dans les 15-20 dernières minutes, parce que c'est vrai que historiquement, sur les dernières saisons, le Tottenham de Pochettino, défensivement, c'était une des équipes les plus solides de Première Ligue. Donc ce serait bien qu'il retrouve cette solidité. Là, on commence à rentrer dans les matchs les plus clutch, les plus importants de cette phase de poule. Et ils ont absolument, de toute façon, besoin de cette victoire pour revenir à 4 points. Enfin, pour arriver à 4 points, en espérant que l'Inter ne prête pas de points face au Barça et du coup jouer la deuxième place jusqu'au bout face à l'Inter Milan. Donc voilà, pour ça, il faudra être sérieux face au PSV et assurer le coup en ne prenant pas de but.
Attention, le PSV est très fort en championnat.
Ouais.
11 matchs.
Et une meilleure différence de but que le PSG. Hein. C'est 39 buts marqués et seulement 4 encaissés en championnat. Donc Florent, est-ce que ça ne remet pas en cause ton choix finalement?
Absolument pas.
D'accord. Le PSV qui n'a gagné qu'un 0 ce week-end, donc ça peut-être être le signe que la machine s'enraye, hein, puisque le PSV avait aussi perdu contre Valveik en coupe à domicile.
Terrible de subir le joug du dieu cuche comme ça.
Vous êtes fou. Est-ce qu'on a des choses à rajouter ou est-ce qu'on rend l'antenne, comme dirait je ne sais pas qui, comme dirait Thierry Ardisson?
Ah ben je pense qu'on va rendre l'antenne parce que là il fait déjà nuit noire, c'est terrible.
Et puis surtout l'ordi sur lequel on enregistre n'a presque plus de batterie.
Ah, donc il va falloir faire vite. On aurait aimé raconter des anecdotes, mais on n'aura pas le temps ce soir. On les gardera pour un des podcasts de la trêve internationale sans doute.
Il y a toujours l'anecdote où tu m'avais cassé l'arcade.
Oui, mais la dernière fois qu'on l'avait évoqué, personne n'avait réagi comme si c'est pas une histoire incroyable quand même, parce que quand tu vois nos gabarits, ça mérite explication. Oui.
C'est vrai que normalement, ça doit pas se passer dans ce sens-là.
Voilà, et surtout, vu ta tendance quand même à t'énerver, notamment quand on te tapote l'épaule. Mais peut-être avant de se quitter, un petit rappel sur les plateformes d'abord.
Plateformes Spotify, iTunes, SoundCloud,
Stitcher,
Deezer,
Google Podcast,
Deezer.
Podcast Addict, tout ça. Et surtout sur le code PMU.fr, Florent.
Eh oui, le code VDB.
je l'ai condamné à mort, là.
Alors, mais c'est toujours aussi simple quand vous inscrivez sur PMU.fr pour rentrer nos paris et gagner des sous avec nos conseils. N'oubliez pas de rentrer le code VDB. Le code promotionnel, oui, c'est code promotionnel et pas code, je sais plus ce qu'il y a en dessous, mais bref. C'est le premier endroit où vous pouvez rentrer en code quand vous vous inscrivez sur le site.
Ça marche. Et s'il y a plus de 10 inscrits dans la semaine, on fait un podcast spécial anecdote de 8 heures.
Je pense qu'on pourra facilement le remplir.
Voilà. Bon, merci messieurs, on va se quitter là-dessus parce que là, on est en train de s'éloigner de notre objectif initial qui était de parler de football intelligemment. On se retrouve jeudi dans la journée pour débriefer les matchs de Ligue des Champions. Et puis voilà, c'est tout, c'est terminé.
Merci, Dieu cuche.
Ciao.
Salut. Ciao. Et cordialement.
Vous pensez avoir tout compris? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.